Bonjour, Renaud Dourge en votre compagnie. J'ai le plaisir d'avoir deux invités aujourd'hui dans ce studio. Tout d'abord, une invitée, dirais-je, qui a déjà son rond de serviette chez nous, comme l'on dit, qui est une habituée de la maison. C'est Nathalie Jigounova-Komarova, qui est donc l'éditrice des éditions Natania. Et nous avons un nouveau venu qui est un comédien, chanteur et qui aujourd'hui va être un lecteur.
Tout à fait.
Il s'agit donc de Jean-Jacques Delaunay. Bah, présentez-vous, puisque c'est la première fois que vous venez. Enfin, il y a certaines des personnes ici qui vous écoutent ou qui vous voient, qui vous ont vu sur scène, fort probablement.
Je vais essayer de faire une présentation succincte, parce qu'il y a tellement à dire. C'est pas, je ne suis pas du genre prétentieux, mais j'ai une carrière assez multiple, assez riche. Moi, j'ai été musicien durant mon adolescence.
Tromboniste, je crois.
Tromboniste, oui. J'ai gagné ma vie, en fait. Enfin, ma vie, au départ, j'ai gagné de l'argent avec ce métier de musicien, de l'âge de 18 ans à l'âge de 23 ans. Ensuite, étant passé par le Conservatoire d'art dramatique, d'où je suis sorti avec un premier prix de comédie classique, je suis rentré dans une troupe, j'ai joué Molière et d'autres œuvres classiques et non classiques, modernes, des opérettes, je joue dans des opéras comiques, des comédies musicales, et j'ai commencé à écrire des chansons avec un de mes condisciples de conservatoire qui s'appelle Alain Cocagne, et nous avons créé un duo qui s'appelait, puisque le duo n'existe plus, Cocagne et Delaunay. Et voilà, nous avons fait une grande carrière parisienne dans les cabarets parisiens.
Et vos débuts, c'était dans une région que j'aime particulièrement, c'est la Normandie.
C'est la Normandie, voilà, oui. c'était Rouen. Et puis donc je suis à Paris depuis l'âge de 25-26 ans. J'ai écumé tous les grands cabarets parisiens, le Don Camillo, et enfin tous les cabarets parisiens. Et puis depuis une quinzaine d'années, j'ai versé dans ce qui me passionne le plus au monde, c'est le chant, c'est la chanson, et en particulier la chanson crooner, crooners américains, notamment avec Frank Sinatra bien sûr en tête,
Bing Crosby,
voilà, Dean Martin, Tony Bennett et tant d'autres, des gens qui ne sont pas très connus en France, ceux-là sont très connus, mais d'autres ils sont très très peu connus, mais qui sont des valeurs sûres aux États-Unis et des valeurs mondiales aussi.
Alors Nathalie, si vous avez choisi de venir aujourd'hui avec Jean-Jacques, c'est parce qu'il va lire tout à l'heure un des textes d'un auteur que nous connaissons très peu en France, malheureusement, mais dont vous avez édité plusieurs ouvrages. Alors, je vais vous laisser prononcer son nom, vous le ferez beaucoup mieux que moi.
Bonjour et très chers auditeurs et auditrices. Nous allons présenter encore une fois de plus cet auteur inconnu, presque inconnu ou mi-connu, Mikhaïl Saltykov-Shchedrin. Saltykov, c'était son nom, de vrai nom, et Shchedrin, c'était le pseudonyme. Nous avons commencé cette année par fêter ces bicentenaires de l'anniversaire.
Il est né en 1826, effectivement.
Tout à fait, le 27
janvier. 27 janvier dans le calendrier grégorien, précisons-le.
Grégorien, oui, c'est ça. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'il était peu connu en France, aux lecteurs français, je suis convaincue par la faute de... en fait, c'est vraiment difficile à traduire, parce que Saltykov-Shchedrin est riche en expressions idiomatiques, en idiomes, en hyperbole, en symbole en quelque sorte. Sa propre langage, son langage est très riche en comparaison, telle expression que lui-même il a inventée, et jusqu'à maintenant on s'en sert. Il a beaucoup enrichi la langue russe par son expressivité personnelle. Même dans une phrase, dans une seule proposition, on pourrait avoir 3, 4, voire 5 expressions idiomatiques.
Précisons qu'il lui-même ne se revendiquait surtout pas comme romancier.
Surtout pas comme un poète. Pourtant, il a commencé à l'âge jeune, quand il était lycéen, il a écrit la poésie. Il était inspiré par Pouchkine à l'époque. Mais il n'aimait pas ses poésies et surtout, il ne voulait pas qu'on le mentionne en tant que poète.
Et c'était, on peut dire, plutôt un satiriste.
Satiriste qui maîtrise par excellence la langue d'Ésope et qui, grâce aux métaphores, aux comparaisons, les intrigues folkloriques, les héros sont souvent les animaux. ou les autres créatures vivantes.
Comme La Fontaine, en quelque sorte.
Comme Ésope, La Fontaine.
Oui, après, oui, Ésope, c'est inspiré. La Fontaine, c'est inspiré des Ésope.
Voilà. Inspiré des Ésope aussi. Paille, si on continue, on peut toujours continuer à comparer, bien entendu. Et ce qui lui a permis, en fait, il a utilisé ça comme l'un des moyens de contourner la censure de l'époque.
Comme La Fontaine.
Tout à fait. Et lui-même, d'ailleurs, il y a certains de ses textes qui ont été édités en Suisse, j'ai remarqué.
Oui,
plutôt qu'en Russie.
À Genève, il y avait une très bonne édition qui faisait beaucoup de promotion pour les écrivains russes.
Mais en France, il est très peu connu, mais est-ce qu'en Russie, on le lit toujours ?
Toujours. Toujours, il est lu, il est étudié dans le programme scolaire à partir de l'âge de 8-9 ans. C'est comme un des œuvres et un des auteurs
classiques
obligatoires à connaître, bien. C'est sûr.
Avant de connaître les éditions Latania, Jean-Jacques, est-ce que vous connaissiez cet auteur ?
Non, du tout.
Comme
c'est,
moi.
C'est vrai qu'en France, on dit que les Américains sont centrés sur leur pays et qu'ils n'ont pas une culture du monde très étendue. Mais en France, la culture russe, c'est pas ce qu'on connaît le mieux. On connaît les grands auteurs. Les grands.
Tolstoï, Pouchkine, Gogol, Tchekhov.
Et on peut parler
de Tourguenieff qui appréciait justement cet auteur.
Tourguenieff aussi, oui.
Oui. C'est vrai qu'on en connaît quand même pas mal. Quand on les énumère, on en connaît beaucoup.
Et quand vous avez lu on peut dire que ce sont des nouvelles ou des contes.
Ce sont les contes, en fait, satiriques. C'est la satire politique du 19e siècle qui était bien présenté sous une forme d'un conte. Et donc, c'était la série des contes qu'il a écrit à l'époque, Mikhail Saltykov-Chedrine, qui s'appelait, cette série, il a appelé Conte pour enfants d'âge de raison. Donc, c'est pas vraiment adulte-enfant, mais si vous avez l'âge de raison.
Bon, le lit à deux niveaux.
À deux vitesses.
À deux vitesses, c'est vrai.
Oui.
Comme une fois que vous l'avez lu, qu'avez-vous pensé à.
Moi, j'ai pensé que c'était vraiment un auteur. Déjà incontournable quand on veut s'éduquer, voilà, quand on veut s'éduquer, et son œuvre est intemporelle et universelle.
Alors il y a un texte très moderne, c'est celui dont vous lirez tout à l'heure des extraits. Il s'agit du gazetier bonimenteur.
Et le lecteur crédule.
J'ai oublié la moitié du titre.
C'est le titre, oui, exact.
Okay. Et donc c'est tout. Alors rappelons que comme d'habitude aux éditions Natania, les ouvrages sont bilingues en français
toujours.
Et en russe. Toujours. Ça, il faut rappeler toujours. C'est la constante de la maison d'édition.
On adore les deux langues.
Mais avant de venir à ce titre, on peut quand même en citer d'autres. Il y a le lièvre
raisonnable.
Alors il y a un mot que j'ignorais, la vobla boucanée.
Normalement, il y a deux mots qui dans ce titre qui est composé de deux mots et les deux sont méconnus ou peu connus. Ou pas du tout. Donc, la vobla, c'est un sort de poisson qui n'est pas connu par la faute fait de l'habitation, parce que c'est une sorte de poisson qui est dans la mer Caspienne. Donc, bien entendu qu'on ne peut pas le connaître si on n'est pas passé à la mer Caspienne.
Et vous, je crois que vous, à la ligne. Jean-Jacques, c'est que vous avez trouvé un autre sens pour le mot boucaner.
Boucaner, oui, il y a un verbe français. Alors, je ne sais pas si c'est un régionalisme ou quoi. En tout cas, moi, je connais le verbe emboucaner. C'est en fait, bon, vous connaissez, c'est entourloupé. Entourloupé, c'est avoir en face de soi un malhonnête, un escroc, et qui va avec des sourires et qui enjolive les choses et qui rêve, vous arrive à vous mettre dans sa poche, à vous mettre dans la direction.
C'est un peu le corbeau et le renard en quelque sorte.
Le corbeau et le renard est un emboucaneur. Tout à fait.
Très bien.
C'est bonimenteur.
C'est le bonimenteur, tout à fait.
Oui, on en revient.
Et moi, je tenais vraiment à trouver quelque chose qui est plus proche du contexte de sens de Saltykov-Chedrine. Parce que, bon, on connaît la façon de préparer les poissons comme séchage, fumage, mais peu qui sont, en fait, je parle des citadins, hein, des habitants qui ne sont pas. Qui peut-être ne savent pas ce que c'est boucaner. En fait, on enlève tout ce qui est à l'intérieur, les entrailles, le cerveau en quelque sorte, ou le cervelle, et on commence à le faire un peu préparation lente, et c'est ce qui se passe avec ce fameux poisson de la mer Caspienne. On le prépare doucement, fermement, et donc à la fin, elle ne sort toute allégée, toute heureuse, en disant que y a un slogan qu'elle pratique partout et qu'elle enseigne aux autres, en disant que les oreilles ne poussent pas plus haut que le front. Ça veut dire nul n'est à l'impossible, nul n'est tenu.
Bien sûr. Autre texte, La Bête de Somme.
Oui.
Donc, est-ce que vous pouvez dire un ou deux mots sur ce texte?
J'adore tous ces contes-là, particulièrement ben, La Bête de Somme est un peu triste, plus triste que les autres, parce qu'elle représente beaucoup de choses pour notre vie contemporaine. Je pense qu'il faut le lire attentivement. La lecture ne prend que 15 minutes,
oui,
maximum, mais je ne veux pas raconter le contenu de ce conte. Nous avons fait une excellente soirée musicale littéraire où la lecture était présentée par une excellente actrice du théâtre anglophone.
Comédie française.
Jean-Jacques Delaunay était présent à cette soirée. Je pense qu'il faut sentir ces choses-là.
Bien.
Donc, ce n'est pas vraiment un conte juste à raconter le contenu.
Et il y a également Vertu et Vice. Alors, tous les ouvrages sont illustrés. À chaque fois, ce sont des illustratrices et illustrateurs différents.
Signalons-le. Contrairement à Aristote, c'est Vice et Vertu. Donc là, c'est Vertu et Vice. Notre édition est associative. On a créé l'association en 2015 pour soutenir les artistes dans toute leur expressivité. Et c'est pour cette raison que, à chaque fois à la sortie du livre, déjà, on cherche des jeunes talents pour lesquels notre maison d'édition puisse servir comme une sorte de point de départ de leur carrière. Nous pouvons les donner les outils, on souhaite soutenir, et donc le livre, c'est un résultat de nos travaux en commun. Nous travaillons aussi avec d'autres pays du monde entier, puisque c'est une association qui est ouverte à tout. Donc, c'est une plateforme de perspective de développement international. On cherche les talents du monde entier. Donc, il y a certains illustrateurs qui sont de l'Allemagne. Il y a une qui était de l'école de Smolensk d'art et d'iconographie. Elle gère une école d'art à Karlsruhe en Allemagne. Donc il y a une de ses élèves aussi qui a illustré justement les Vertus et Vices. Et donc à chaque fois quand on organise un événement, on présente aussi l'exposition des illustrations et en présence des illustrateurs. Par contre, il y a le lièvre raisonnable est illustré par notre talentueuse artiste très jeune, ressortissante de SAG Peiningen, c'est une école parisienne les plus connues et célèbres, renommée
Hortense
à ce moment-là.
Hortense Dufour.
Hortense Dufour.
Et je ne sais pas, je pense que c'est un homonyme, il y a une romancière qui s'appelle également Hortense Dufour.
C'est sa tante.
Ah voilà, décidément, parce que j'ai déjà lu, des ouvrages d'Hortense Dufour, mais j'ignorais qu'il y avait...
Beaucoup de confusion, oui. Donc il y avait même à la soirée, il y avait la personne qui est venue chercher Hortense Dufour, et je présente mon illustratrice, elle a dit non, c'est pas elle. Mais c'est vrai que c'est pas le même âge.
Nous allons laisser passer un communiqué, si vous le permettez, et ensuite nous laisserons la parole à Jean-Jacques Delaunay pour nous lire un extrait d'un ouvrage.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie de Nathalie, Gigonova Komarova et de Jean-Jacques Delaunay pour parler des ouvrages donc inspirés de cet auteur Mikhail Sakhalkov-Chchedrine. Excusez-moi, je prononce horriblement mal. Oui, vous demandiez combien de temps il nous reste 8 minutes à peu près,
d'accord.
Donc vous pouvez. Je vous laisse la parole.
Il était une fois un gazetier, un faiseur de journaux. Il était une fois un lecteur. Le gazetier était un fief et menteur. Il trompait tout le monde à longueur de journée, tandis que le lecteur, lui, était d'une telle crédulité qu'il croyait tout ce qu'on lisait. C'est ainsi que le monde va depuis la nuit des temps. Les trompeurs trompent, les crédules le croient. Sum cuique, à chacun son dû en latin. Bien installé dans son antre, le gazetier ne faisait rien d'autre que tromper. Tromper encore et toujours. « Attention, prenez garde, la diphtérie fauche les braves gens !» s'écriait-il. « Pas une goutte de pluie depuis le début du printemps. À ce temps-là, à ce train-là, nous finirons sans un quignon de pain. Les incendies dévastent campagnes et villes. Les biens de l'État et de la collectivité sont pillés de toutes parts. » Et le lecteur lit tout cela et croit naïvement que le gazetier lui ouvre les yeux. « C'est donc cela, se dit-il, notre liberté de la presse. Où que l'on regarde, partout ce n'est que diphtérie, famine et disette. » Ce fut l'engrenage. Plus il avançait, plus il forçait le trait. Le gazetier comprit bien vite que ses boniments allaient droit au cœur du lecteur. Alors il redoubla d'ardeur. « Chez nous, pas la moindre sécurité, disait-il. Aucune. Ne pointe pas le bout de ton nez dehors, lecteur. Sinon, oust, tu vas droit au violon. » Ainsi, le crédule lecteur, tête haute et torse bombé, défile dans les rues tout en se disant « Ah, comme le gazetier a su trouver les mots justes pour parler de notre insécurité !» Mais ce n'est pas tout. Rencontrant un autre lecteur crédule, il lui demandait « Avez-vous lu comme le gazetier aujourd'hui nous a joliment étrillé à propos de notre insécurité ?» « Comment ne l'aurais-je pas lu ?» répond l'autre lecteur crédule. « C'est épatant. On ne peut vraiment pas, absolument pas, marcher dans les rues chez nous. À peine sorti, te voilà, au violon. » Et il ne tarissait pas d'éloges sur la liberté de la presse. « Nous ne savions pas, répétait-il à tout vent, nous autres lecteurs crédules, qu'il y avait chez nous de la diphtérie partout. Et voilà donc ce qu'il en était. » Alors, cette certitude leur mit tant de baume au cœur que si ce même gazetier venait aujourd'hui leur annoncer que la diphtérie avait existé, mais qu'il n'y en avait désormais plus trace, ils cesseraient sans doute aussitôt de lire son journal. Et le gazetier s'en réjouit, car pour lui, le mensonge est un profit net. La vérité, voyez-vous, n'est pas donnée à tout le monde. Encore faut-il aller la dénicher. Et pour l'obtenir, on ne s'en tirera pas à 10 malheureux copecs la ligne, tant s'en faut. Alors, le mensonge, voilà le vrai filon. Il n'y a qu'à écrire et à tromper. 5 copecs la ligne et des montagnes de mensonges affluent vers toi de tous côtés. Une telle amitié se noua entre le gazetier et le lecteur qu'ils finirent par ne faire qu'un. Puis, le gazetier... Plus le gazetier trompe, davantage il s'enrichit. Et qu'attendre d'autre qu'un trompeur, d'un trompeur ? Plus le lecteur est trompé, plus il apporte des piécettes. Par tous les moyens, en toute occasion et de toute façon, le gazetier sait arrondir sa bourse. Il n'avait même pas de quoi s'acheter un pantalon. Et regarde-moi ça maintenant comme il fait le fier. Il s'est payé un lèche-botte. Il s'est même offert un bonimenteur des mœurs populaires pour lui servir la soupe. Le voilà qui se la coule douce, ricanent les envieux dans son dos. D'autres gazetiers avaient bien essayé de le supplanter à coups de vérité, se disant que peut-être l'abonné finirait par accourir à leurs appâts. Hélas, peine perdue, rien à faire. Mais le lecteur, lui, ne veut rien entendre d'autre. Il n'a que cette rengaine à la bouche. Les ténèbres des instincts vils me sont moins chères que le mensonge sublime qui nous élève. Longtemps ou non, nul ne saurait le dire. Quoi qu'il en soit, on trouva des braves gens pour prendre en pitié le lecteur crédule. On convoqua le gazetier bonimenteur et on lui dit « Assez, honte à toi, cela suffit, homme sans scrupules et sans foi. Jusqu'à présent, tu as fait commerce du mensonge. Désormais, tu feras commerce de la vérité. » D'ailleurs, les lecteurs eux-mêmes commencèrent à reprendre peu à peu leurs esprits et se mirent à envoyer des petits mots au gazetier. « Je me promenais aujourd'hui, voyez-vous, avec ma fille sur l'avenue Nevski. Je croyais passer la nuit au poste de police de Sjedzia. Ma fille avait même prévu des sandwichs, au cas où, en disant « Ah, comme ce sera amusant !» Et contre toute attente, nous sommes rentrés tous les deux chez nous, sains et saufs. Alors dites-nous, comment peut-on concilier un fait aussi rassurant avec vos éditoriaux sur notre prétendue insécurité? Naturellement, de son côté, le gazetier n'attendait que cela. À vrai dire, lui-même en avait assez de tromper. Depuis longtemps déjà, son cœur penchait vers la vérité. Mais que faire lorsque les lecteurs ne s'accrochent qu'au mensonge? On compatit, pourtant, l'on trompe quand même. Maintenant, alors que de tous côtés, on lui met le couteau sous la gorge pour qu'il dise enfin la vérité, eh bien, soit, il est prêt. La vérité, rien que la vérité, qu'il en soit ainsi, bon sang. Avec le mensonge, il s'était déjà bâti deux maisons de pierre, mais pour les deux autres, il va bien falloir suer à dire la vérité. Et voilà qu'il se mit, jour après jour, à assommer le lecteur de vérité. Plus de diphtérie terminée, plus de cachots, ni d'incendie. Et si Konoptope avait bel et bien brûlé, eh bien, après l'incendie, il a été reconstruit encore mieux qu'avant. Quant à la récolte, grâce aux pluies d'été enfin revenues, elle fut si abondante qu'on mangea à satiété et que pour finir, on se mit même à jeter sous la table aux Allemands. Allez, régalez-vous! Mais ce qu'il y avait de plus remarquable, c'est que le gazetier n'imprimait désormais que la vérité, tout en continuant à toucher ses 5 copecs à la ligne. Et depuis qu'on s'était mis à débiter la vérité à tout va, son prix avait chuté. Ainsi donc, vérité ou mensonge, tout se valait. Même prix dérisoire. Une misère. Et les colonnes du journal, loin d'en devenir plus ennuyeuses, gagnèrent au contraire encore en densité, car dès qu'on se met à examiner de près la salubrité de l'air, il en ressort un tableau si riche, si foisonnant, qu'on pourrait tout y mettre, et ce ne serait encore pas assez. Finalement, le lecteur reprit ses esprits et ouvrit les yeux. D'ailleurs, il ne se portait déjà pas si mal lorsqu'il prenait le mensonge pour la vérité. Mais à présent, son cœur était plus léger que jamais. S'il entrait dans une boutique, on lui disait « Vous verrez, d'ici quelque temps, le pain sera bon marché. » Il passait chez le volailler, on lui disait « Vous verrez, un de ces jours, les cailles ne vaudront plus rien, elles seront données. » Et pour l'instant un rouble, 20 copecs, la paire. Voilà quel tournant prirent les choses, par la grâce de Dieu.
Nous allons peut-être arrêter la lecture. Oui. Il faut laisser quand même au lecteur le plaisir de découvrir la fin. Mais c'est avec un grand plaisir que nous avons entendu ce qui nous donne vraiment très, très envie pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Moi, je l'ai lu, je connais la fin. Mais ceux qui ne l'ont pas lu, vraiment de connaître la fin de cette histoire.
C'est très actuel, en fait.
Très, très actuel. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, oui. On croirait certains patrons de presse d'aujourd'hui. Oui. Je ne citerai pas de nom, par contre. Ben, nous allons malheureusement arriver déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous pensez éditer d'autres titres de cet auteur ou...
J'ai déjà édité 8.
C'est déjà pas mal.
Ce sont les contes de la même série, il y a deux lièvres, lièvre raisonnable et le lièvre Saint-Esprit. Je pense que c'est aussi bien. Il y a aussi Bogatir et Conscience disparue. Il y a encore un autre livre, le Carassin aussi, reprend le monde de poissons, le Carassin idéaliste. Le Carassin, c'est un petit poisson aussi, donc idéaliste, qui est sorti en russe, accompagné par le vocabulaire en français. C'est pour ceux qui apprennent la langue. Voilà.
Alors nous arrivons malheureusement au terme. Il y a quelques jours une soirée, malheureusement nous n'avons pas pu en parler à temps, consacrée au gazetier bonimenteur et le lecteur crédule, mais il y en aura peut-être d'autres.
À la rentrée scolaire, peut-être, on fera autre chose.
Et vous serez peut-être encore là
en parler. J'espère, parce qu'on est en amitié avec notre ami et je participe le plus possible.
Merci à vous deux. Nous allons terminer en musique en écoutant un auteur de circonstances, puisqu'il s'agit de Borodine.
Oh, magnifique.
Merci. À très bientôt.